18h-19h, Time Sport, avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Vous êtes sur Beurre FM, c'est l'heure de Time Sport. Guillaume qui vient d'arriver, comment ça va Guillaume?
Top. Un petit peu de retard, c'est compliqué à Paris en ce moment, tu comprends, les gilets jaunes, il y a plein de choses. Mais là, surtout, on va parler de sport avec nos consultants qui nous accompagnent aujourd'hui. Saïd Hamda, Mamadou Lamine Mané, hein, qu'on présente quasiment plus puisqu'il est tout le temps là. Claude Tollé, notre coach, Nabil Zindik. On va parler de la Ligue des Champions, notamment des performances de Monaco, de Paris. Restez avec nous. Et enfin, on finira en parlant justement d'une finale de Ligue des Champions qui est possiblement délocalisable. On commence avec le ras-le-bol. C'est parti, c'est tout de suite.
Time Sport.
Et pour parler du ras-le-bol, on va parler notamment triste jusqu'au bout. C'est Monaco qui s'incline contre Dortmund alors qu'elle ne pouvait plus rien espérer. La SM a subi contre Dortmund sa 5e défaite en 6 journées. Donc 2-0, voilà, plutôt 0-2. Peut-on parler de descente aux enfers pour un club demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2017 qui va replonger dans la lutte pour le maintien dès dimanche à Lyon? On va poser la question à notre consultant Saïd Hamda concernant Monaco.
Oui, je pense que c'est pas exagéré de parler de descente aux enfers, mais la descente aux enfers, elle se fera en fin de saison après la 38e journée s'ils se retrouvent toujours dans les trois mauvaises places, ou même les deux mauvaises places, puisqu'il y aura maintenant le système des barrages, mais on n'attendait rien de ce match-là. De toute façon, Dortmund a fait tourner son effectif, hein. Il n'y avait pas Reus, il n'y avait pas Witzel. Voilà, Dortmund l'a joué plutôt à la cool. Monaco est venu parce que c'était obligatoire de venir. Maintenant, Monaco doit se concentrer sur son championnat et même laisser les coupes de côté. Pour l'instant, on est vraiment focus sur le championnat. Il y a la semaine dernière, tu me disais qu'ils avaient pris un peu d'air en sortant de la zone rouge, mais j'avais raison. Le match entre Guingamp et Dijon n'a pas fait de détails. Dijon a gagné, donc Monaco est redescendu à une place qui n'est pas la sienne. Donc aujourd'hui, Monaco va vraiment miser sur le mercato hivernal et prendre au moins un joueur à chaque ligne, histoire d'avoir du sang frais, histoire aussi de donner des armes à Thierry Henry, essayer de se sortir de cette mauvaise passe. On sait que c'est une saison à oublier pour Monaco. Il faut juste que ce soit une saison à oublier, mais qu'on reste en Ligue 1 et qu'on n'aille pas voir en Ligue 2, voilà.
Et donc du coup, dans ce match, il n'y avait pas trop d'enjeux, hein, puisque du coup, peu importe le résultat, la SM ne pouvait pas se qualifier. Coach Tollé, quel est ton avis sur ton regard sur les performances de Monaco et surtout cette cinquième défaite en 6 journées?
L'objectif monégasque est clairement la préparation de la rencontre face à Lyon. C'est le match le plus important de la semaine. Thierry Henry l'a dit, les joueurs l'ont dit aussi. Alors c'est pas une excuse, hein, bien sûr, mais ils sont dans une situation tellement compliquée en championnat que si tu veux, ça servait de bonne préparation pour le match face à Lyon, avec des jeunes qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, mais vraiment le plus important pour Monaco, c'est Lyon. Voilà. Après, malheureusement, leur campagne fut catastrophique, mais leur début de saison est extrêmement compliqué.
Avec un changement d'entraîneur,
des difficultés au niveau de l'effectif, des cadres qui ont failli, vraiment, beaucoup plus profond qu'on ne le pense. Mais il va falloir regarder devant pour Monaco, qui a encore, pour moi, les cartes en main pour se maintenir.
Nabil Zindik.
Écoute, effectivement, Monaco avait plus ou moins rien à perdre, à part donner une bonne figure, une bonne image sur la scène européenne, ou sinon sur l'aspect financier également, parce qu'une victoire aurait pu leur apporter quand même à peu près 1 million. Mais malheureusement, voilà, c'est encore une défaite, 0-2. On a vu quelques jeunes qui ont de l'avenir, notamment à Massengo, mais ça reste fragile, et puis un manque de confiance aussi, parce que tu perds encore, c'est encore une défaite. Donc effectivement, tu peux préparer correctement ton match contre Lyon, mais j'y crois pas un instant, et franchement, il n'y avait rien à se mettre sous la dent, et c'était un match sans enjeu.
Du coup, quelles seront les échéances pour le nouveau coach de Monaco, Thierry Henry?
C'est de redresser la barre, surtout on demande à cette équipe de proposer quelque chose, parce que là on voit rien du tout au niveau de l'état d'esprit, au niveau du fond de jeu, parce que là ça fait un petit moment qu'il est là, qu'il est à l'AS Monaco. On voit pas de fond de jeu, on voit pas vraiment de progrès au sein de cette équipe. Donc on met des espoirs sur la jeunesse pour justifier quelque chose de positif, notamment par certains exploits de certains joueurs, notamment le petit Sofiane, Diop, le Massengo, mais ça reste quand même peu de choses, quoi.
Et donc, du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est y a-t-il des motifs d'espoir pour l'ASM? Et si oui, lesquels, Mamadou?
Motif d'espoir, il faudrait arriver tout de suite à la trêve. Je pense qu'il faut. Thierry Henry a pris le camion monégasque qui était en pleine chute libre. qui est en roue libre plutôt, il faut mettre un coup de frein à main, s'arrêter, faire un diagnostic. Il n'a pas eu le temps de le faire. Il est arrivé, il a pris la saison en cours. Le club était déjà dans la panade. Pas de résultats, pas de fond de jeu, des cadres partis, beaucoup de blessés. Là, aujourd'hui, il faut qu'il puisse stopper
l'hémorragie, quoi.
L'hémorragie, mais faut s'arrêter. Le problème, c'est qu'il a pris, il a sauté dans le train en marche. Là, faut au moins s'arrêter. Et je pense que la trêve, alors d'ici la trêve, il faut effectivement qu'il puisse ralentir et réduire cette hémorragie ou cette fracture. Et pendant la trêve, le diagnostic, il doit être très très rapide pour pouvoir repartir de l'avant, parce qu'il restera encore la moitié des matchs. D'ici là, je sais pas s'il va réussir à faire quelque chose d'ici la trêve, mais c'est la trêve qui va lui permettre de pouvoir remettre le bateau monégasque sur les
fonds. Et Laura, oui, cette dure mission de sortir Monaco, donc
espérant que par rapport à ça, justement, qu'il puisse avoir un mercato qui puisse lui emmener des cadres. Il lui manque de cadres. Les jeunes, ils sont bons, mais c'est les jeunes en devenir. C'est pas ces jeunes-là qui vont sauver le club. Il faut des cadres absolument. Et j'espère qu'il pourra attirer grâce à son réseau et qu'on pourra mettre un petit peu, excusez-moi, de d'oseille pour faire venir des cadres. Sans ça, ça va être très très compliqué que de continuer et de finir la saison avec les jeunes qui
sont. Ça me fait penser un petit peu à l'AS Saint-Etienne l'année dernière, où ils étaient en difficulté. Oui. Et notamment, ils ont, lors du mercato hivernal, ils ont recruté des joueurs.
Mbila, des joueurs comme Mbila. Debuchy.
Debuchy, un défenseur central.
C'est pas Kabela qui les a rejoints aussi?
Donc pour toi, ça se jouera surtout au-delà du fait que Monaco doit absolument sortir de cette zone de relégation, et ça se jouera surtout au mercato, absolument, mercato d'hiver. On va donner la parole à notre coach Tollet dans quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez réagir au 01 53 48 30 00 ou avec le hashtag Thaisport sur Twitter et sur Facebook. Coach Tollet, tu voulais nous dire quelque chose concernant un peu Monaco. Est-ce que tu partages cet avis, c'est ça va jouer surtout au mercato?
Ouais, ça joue surtout au mercato. Je pense que le mercato, ils l'ont aussi à l'infirmerie. Oui. Malheureusement, il y a beaucoup de joueurs.
C'est vrai. Le gardien, déjà, il manque un gardien de but.
Bien sûr.
Botic, finaliste de la Coupe du Monde.
Glick, Golovin,
défenseur central aussi.
Glick qui vient de revenir, mais faut voir aussi quel est l'état de ces joueurs-là qui sont censés apporter une plus-value, censés être importants au groupe, mais d'après des sources sûres, ils sont vraiment au fond du trou. Il y a vraiment des joueurs cadres qui ont failli, et donc c'est difficile après de trouver un fond de jeu aussi avec des jeunes joueurs qui pour la majeure partie évoluaient encore en réserve il y a de cela quelques mois. Donc ce qu'il faut, c'est impérativement prendre des points d'ici la trêve, bien recruter au mercato des joueurs vraiment d'expérience, capables d'apporter une plus-value dès le mois de janvier.
Donc voilà, le mercato et évidemment les performances qui seront à suivre, et on les suivra, les performances de Monaco. On aura le temps d'en reparler. On va parler, avant de parler du Paris Saint-Germain au Maracana, hein, pas celui du Brésil évidemment, on va parler, c'est incroyable mais vrai, mais une finale de Ligue des Champions hors Europe, est-ce que c'est possible? C'est l'heure d'incroyable mais vrai.
Time Sport.
Et oui, donc on continue de parler de Ligue des Champions avant de parler du Paris Saint-Germain. On va un peu peut-être divaguer sur le sujet, mais une finale de Ligue des Champions hors d'Europe, est-ce que c'est possible? Ça, on va se poser la question ensemble, puisque la délocalisation de la finale de la Copa Libertadores, finalement qui s'est pas fait à Buenos Aires, mais à Santiago Bernabéu, à Madrid, donc semble avoir donné des idées à Alexander Seferin, le président de l'UEFA, qui a confié donc au journal anglais Le Sun qu'il verrait bien la finale de la Ligue des Champions organisée hors du territoire européen dans les années qui viennent. Donc fausse ou bonne idée? On en discute avec notre coach Tollet. Est-ce que c'est une bonne idée finalement de faire la finale de la Ligue des Champions en dehors du territoire européen?
Moi perso, ça me fait pas rêver.
Pourquoi?
Bon, ça me fait pas rêver. C'est une
Est-ce que c'est une fausse ou une bonne idée? T'as pas répondu à la question.
Mais c'est une compétition européenne. Je joue ta finale chez toi, à la maison. Tu veux la jouer où, là? Enfin, je veux dire, la finale à Libertadores a été jouée en Europe parce que, voilà, pour les soucis que l'on connaît en Argentine, malheureusement. Mais bon, si on commence à jouer des finales de Coupe de France en Australie, la finale de... Enfin, moi, perso, ça ridicule.
Est-ce que finalement c'est peut-être pas le pas commercial a pris le devant sur le pas sportif?
Bien sûr, clairement.
Voilà, non mais c'est ça
aussi. Ils s'en foutent, on sait qu'ils s'en foutent, on a rien à faire.
Oui, mais derrière
c'est dommage.
Derrière ça se vend peut-être bien à l'étranger, Nabil.
Oui, monsieur.
Oui, non mais je suis d'accord avec Claude, moi. Après, il faut penser aux supporters aussi.
C'est clair.
Généralement, la Ligue des Champions, ça se passe en Europe. Donc, forcément, il y a un club européen qui sera en finale ou deux clubs européens. Donc, pour les supporters, il faut penser à leur déplacement, etc. Après, effectivement, on a pu le voir avec la Ligue de football professionnel qui a vendu les droits télé Ligue 1, Ligue 2, notamment à Mediapro. Mediapro, il faut savoir aussi, le propriétaire espagnol voulait aussi également que la Ligue des Champions puisse se jouer notamment aux États-Unis. Il l'avait évoqué, pour justement avoir des parts de marché aux États-Unis ou que ça soit en Asie. Et donc, je pense qu'il a peut-être...
Est-ce que c'est une bonne idée pour toi ?
Bah, financièrement oui, parce que tu gagnes du terrain. Et puis, comme ils l'ont précisé, faut savoir que la Ligue des Champions, la finale de Ligue des Champions est regardée par 1 milliard de personnes. Donc, c'est la grosse compétition mondiale. La Ligue des Champions, c'est à peu près comme les JO. Donc, effectivement, 1 milliard de personnes qui regardent cette finale, je pense qu'il n'y a pas que des Européens. Donc, l'idée est bonne. Parce que tu vas attirer des parts de marché, que ça soit en Afrique ou en Asie, ou notamment aux États-Unis. Notamment, il y a beaucoup d'équipes qui proposent des matchs de préparation aux États-Unis, Barcelone, Chelsea, etc. On a pu le voir. Et également, pourquoi j'insiste sur Mediapro, parce que c'est le propriétaire espagnol. Il a voulu le faire également en Liga, et ça a posé polémique en Liga, parce qu'il voulait délocaliser des matchs, notamment de Barcelone, etc. Et les joueurs ont refusé de jouer, notamment hors de leur zone.
Saïd, j'aimerais te poser une petite question avant que tu réagisses, notamment de faire réagir sur cette citation donc du président de l'UEFA, Alexander Seferin, qui dit 1 milliard de personnes regardent la finale de la Ligue des Champions, hein, c'est ce que disait Nabil à l'instant, avec probablement plus de la moitié d'entre elles qui vivent hors d'Europe. Alors franchement, serait-il égoïste de maintenir ce match sur le vieux continent ? Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que c'est une fausse ou c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Et est-ce que finalement il a tort ou il a raison de dire d'affirmer et de déclarer des choses comme ça dans la presse anglaise ?
Ça tombe bien, je voulais rebondir sur ce point-là. Donc là, tu me facilites un peu le travail.
Ah bah, la transition.
Voilà, la transition est toute faite. Mais il y a du bon et du moins bon. Il faut savoir que la Ligue des Champions, c'est une compétition européenne parce que les clubs sont européens. Mais au-delà de ça, c'est une compétition internationale. C'est-à-dire qu'on a quand même un très gros public qui vient d'Afrique, un très gros public qui vient d'Asie et un public de plus en plus intéressant qui vient du Canada et des États-Unis et même d'Amérique latine. Donc aujourd'hui, c'est vrai que d'un point de vue financier, on a un petit peu tout fait en Europe. On a un peu atteint notre plafond. Donc, quand on réfléchit en termes d'argent, en termes d'oseille, c'est intéressant de le faire à l'étranger. Maintenant, moi, je suis assez réservé sur où on le fait à l'étranger, puisque il faut pas que ça nous soit nous préjudiciable, puisque en tant qu'Européens, et c'est un peu égoïste de notre part, c'est notre compétition. Donc, si c'est pour aller la voir à 2 heures du matin, ça vaut pas le coup. Après, si tu la délocalises, par exemple, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, où le fuseau horaire n'est pas spécialement très différent d'une autre, ça pose pas spécialement de problème. Et là, tu arrives sur un créneau qui est l'Afrique, qui regarde énormément le foot aussi.
Oui, mais j'ai posé la question, l'impact pour les supporters. Demain, il y a une finale, par exemple, imaginons le PSG en finale de Ligue des Champions. Les supporters de Paris vont peut-être devoir aller, je sais pas, à Abu Dhabi ou même, imaginons, en Amérique latine pour voir le match. Est-ce que tu penses franchement que ça va les satisfaire ?
C'est un petit peu injuste pour les supporters, on va dire, de la ville, du club qui va arriver en finale. Mais bon, aller par exemple en Serbie ou en Russie ou n'importe où, ça.
Là, on reste en Europe, hein.
Ouais, je sais, parce que c'est le système actuel. Ça justifie un déplacement. Donc quoi qu'il arrive, les supporters vont se déplacer. Et il faut savoir que par exemple Manchester United a énormément de supporters en Chine. Donc ces supporters-là ne sont pas des sous-supporters par rapport aux supporters anglais. Et ce serait bien qu'eux aussi aient la chance de voir leur équipe pas très loin de chez eux. Parce qu'on pense souvent aux supporters européens qui veulent suivre leurs équipes. Mais comme tu le disais très bien, il y a beaucoup de supporters internationaux. Ça veut dire que ces gens-là, bah, des fois ils viennent de Chine, ils viennent de Corée, ils viennent d'Australie pour venir. Et donc ce serait bien que parfois on varie les plaisirs et qu'on les amène là-bas.
Mais il y a les tournées, ça suffit.
Les tournées, c'est des matchs qui sont pas intéressants.
Ça suffit.
On fait jouer des petits jeunes qui ne sont pas connus. Donc en vrai, c'est leur donner des miettes. Ça, c'est Macron qui doit dire ça.
Ça suffit les tournées.
On va donner notre consultant. Mamadou Lamine Mané.
Juste pour terminer mon propos, je dis juste que c'est pas si dérangeant que ça. Quand on réfléchit en termes d'argent, ça peut être dérangeant en termes de fuseau horaire. Voilà, c'est juste ça.
On aura l'occasion d'en reparler puisque c'est pas fait. C'est qu'une déclaration dans le Sun, hein, cette déclaration du président de l'UEFA. Donc voilà, Alexander Seferin. Restez connectés sur Beurre FM. On va parler de la Ligue des Champions, notamment de le PSG qui taille patron au Maracana. On parlera également des huitièmes de l'OL et des huitièmes de finale en ligne de mire face au Shakhtar Donetsk. Restez connectés sur Beurre FM. On se retrouve tout de suite avec vos consultants. À tout de suite.
18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h, 19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. D'accord.
Et on est de retour sur Beurre FM et sur Thaï Sport avec nos consultants Mamadou Lamine Mané, Saïd Hamda, Claude Tollet, notre coach, et Nabil Zindi. On a parlé de l'AS Monaco, de la Ligue des Champions, notamment de la finale, possiblement hors Europe. On verra, on suivra ça. Hein. Et là, on va parler du PSG qui taille patron au Maracana en gagnant 4 buts à 1. Et on en parle tout de suite avec nos consultants. C'est parti, c'est l'heure de la victoire.
Thaï Sport, la victoire.
Et avant de donner la parole à nos consultants, on est avec un auditeur, Abdel, qui nous appelle de Paris, qui veut sûrement réagir à cette victoire du Paris Saint-Germain. Bonjour Abdel. Enfin, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir aux chroniqueurs et je salue également.
Bonsoir Abdel. Bonsoir Abdel.
Salut Abdel.
Écoutez, moi simplement, effectivement, je voulais réagir par rapport au match d'hier.
Monaco ou Paris?
Non, Paris. Monaco, c'est seconde zone, Paris, Monaco. Monaco, un petit tour.
Il attaque fort, Abdel.
Oui, non, mais voilà, Monaco, bon, c'était sympa l'année dernière, mais cette année, malheureusement pour eux, c'est plus compliqué, mais bon. Simplement pour revenir.
Du coup, Paris, est-ce que Paris a fait le travail?
Ouais, Paris a fait le travail, mais même au-delà de ça, je pense qu'il faut, justement voir, bien au-delà de cette victoire qui a été acquise hier. Je pense qu'il y a une vraie cohésion d'équipe et un état d'esprit qui est assez remarquable au sein de cette équipe. Je pense que Tourelle, le coach, a su insuffler une rigueur et une discipline tactique assez admirable, parce que quand je vois le replacement de certains joueurs hier et la capacité d'adaptation comme Marquinhos qui tantôt est numéro 6, tantôt est libéro, je trouve que c'est à mettre au crédit de Thomas Tuchel, qui a tenté, qui a tâtonné et qui finalement a eu raison de persévérer de la sorte. Ensuite, voilà, Paris a très mal démarré, je trouve, sa campagne européenne, et ils ont su justement inverser la tendance à la suite du match contre Liverpool au Parc des Princes, qui a été gagné 2-1. Donc il y a une réelle prise de conscience qui a eu lieu, car ce match, voilà, était acquis tout double, et on n'est pas passé loin d'une énorme désillusion, parce qu'à ce moment-là, je pense que la saison aurait été quasiment terminée. Après, voilà, l'opposition d'hier, certes, était faible, mais on va pas faire la fine bouche, car on nous promettait l'enfer à Belgrade.
Du coup, ce qu'on retiendra, Abdel, c'est la cohésion et le bon match de Paris. On te remercie d'avoir réagi sur l'antenne de Beurre FM. On va continuer d'en parler avec nos consultants, notamment Nabil Zindik. Merci à toi. Et donc, merci d'être aussi chaque jour à nous écouter.
J'avais une question, moi, pour Abdel.
Allô?
Abdel?
Oui, je suis là.
T'es toujours là?
Ouais,
je voulais savoir, alors, d'après toi, est-ce que Thomas Tuchel a trouvé son équipe type?
J'ai envie de te dire oui.
Parce que là, tu me parles d'état d'esprit, le positionnement de Marquinhos, ça
ouais,
gagne.
J'ai envie de te dire oui, mais après la question qui restera pour l'instant sans réponse, c'est le milieu de terrain, parce que je pense que c'est léger encore au milieu de terrain, parce que Verratti, au bout de 60 minutes, même s'il a fait un très bon match hier, il était un peu cuit. Donc ça va être le travail des dirigeants de trouver un numéro 6 pendant ce mercato hivernal. Je pense qu'il faut se renforcer au milieu de terrain, parce que Rabiot, c'est toujours le point d'interrogation. Donc je pense qu'il faudra clairement trouver un successeur.
Merci Abdel pour ce témoignage sur l'antenne de Beurre FM. On continue d'en parler. Merci à toi, notamment de cette victoire du Paris Saint-Germain 4-1, avec des buts de Cavani, Neymar, Marquinhos et Kylian Mbappé dans les arrêts de jeu. Nabil, tu l'as trouvé comment cette équipe du Paris Saint-Germain? Est-ce que tu portes le même regard que notre auditeur sur cette victoire de Paris?
Effectivement, moi je suis totalement d'accord avec Abdel. Je trouve que c'est une bonne analyse. J'ai pris plaisir à regarder ce match. C'était pas facile de gagner à l'extérieur. En plus de ça, avec la manière, j'ai vu un état d'esprit, j'ai vu un collectif hier. J'ai vu de grands joueurs, pas qu'un, mais plusieurs joueurs qui étaient au top niveau, notamment un Neymar en feu, un Kylian Mbappé décisif, un Verratti juste exceptionnel, un maestro. Il prend les ballons, il demande, il construit le jeu au niveau vertical, il cherche de la verticalité. J'ai vu un Marquinhos, des grands joueurs, un Thiago Silva qui tient la baraque derrière. Juste magnifique. Le petit bémol, c'est juste pour Buffon, que je pense qu'il aurait pu éviter quand même le but un peu fautif sur le but qu'ils ont encaissé. Sinon, je trouve que c'est vraiment un match référence pour le PSG. D'ailleurs, tous les joueurs l'ont reconnu. On a retrouvé un état d'esprit. Il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de polémique entre Cavani, entre Mbappé, Neymar. La MSN fonctionne, parce qu'hier ils ont marqué.
MCN,
et c'est de bon augure.
MCN.
MNCN.
MCN.
MCN. Fonctionne. Voilà, la
MCN. La MSN, c'est Barcelone.
En tout cas, on va enchaîner avec toi, Mamadou, justement, pour savoir si est-ce que l'entraîneur parisien a trouvé son 11 type pour faire ses cas. C'est la question qu'on pourrait se poser. Surtout que l'affaire du milieu de terrain des Garnis, ce fameux chaînon manquant de l'effectif parisien évoqué depuis le début de saison, est-il toujours d'actualité en sachant que Tuchel se passe toujours des services de Rabiot?
Mais Tuchel, pour moi, il est en train de faire ce qu'on appelle. On dit toujours que l'intelligence, c'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. Donc là, en fait, aujourd'hui, il est en train de placer avec ce qu'il a. Alors tout le monde l'a bassiné dès le début de saison avec le milieu de terrain manquant. Bah, il l'a pas. Eh ben il fait avec ce qu'il a. Et aujourd'hui il arrive même à se passer des services de Rabiot. Quand même c'est pas mal. Il repositionne Marquinhos qui est un joueur très très intelligent parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Peut-être qu'il va falloir effectivement faire venir un nouveau milieu de terrain. Mais jusqu'à présent il fait le taf. Hein. Et il fait le taf très très bien.
Et puis pourquoi changer une équipe qui gagne aussi?
Bien sûr.
Ça fonctionne bien.
Bien sûr. S'ils ont l'argent et qu'ils peuvent faire venir un milieu de terrain supplémentaire, alors ce n'est certes que l'étoile rouge de Belgrade, mais Marquinhos avait tenu son rôle face à Liverpool. Aujourd'hui, Tuchel, tactiquement, est en train de montrer que il s'excite pas, il s'énerve pas, il bouge ses oreilles par rapport à tout ce qu'on peut dire à côté. Il a un effectif sous sa main. Eh ben, il fait avec ce qu'il a. Et aujourd'hui, il est en train de tirer le meilleur de ses joueurs au poste où il est en train de les mettre. Après, est-ce que ça sera suffisant pour aller plus loin? Peut-être pas. On va aborder les huitièmes de finale. On va être des matchs couperés avec d'autres oppositions que celles de l'Étoile Rouge de Belgrade. On a vu quand même que quand on est tombé contre Naples ou Liverpool, c'était peut-être un peu plus juste. Mais là,
c'est plutôt pas mal. Tu finis premier avec Liverpool et Naples.
Mais
c'est pas
bien
mal
sûr,
quand même.
Mais alors, c'est juste pour laisser le bémol pour dire qu'il y a encore une marge de progression en faisant venir un milieu. On parle d'Ndombele, on parle d'autres milieux de terrain. Mais je pense que Paris aujourd'hui a prouvé qu'il est au rendez-vous et qu'il a répondu. Il répond.
Ils sont au rendez-vous. On va interroger notre consultant d'ailleurs sur cette question. Que peut faire Paris finalement après cette qualification puisqu'ils sont premiers du groupe devant Liverpool avec 11 points. Saïd, qu'est-ce que tu penses notamment de ce Paris Saint-Germain? Où peut-il aller en Ligue des Champions selon toi?
Bah déjà le match référent, je pense qu'il n'était pas hier, mais il était contre Liverpool. Et même Mbappé à la fin du match, il a dit, il y avait un Paris Saint-Germain avant Liverpool et un Paris Saint-Germain après Liverpool. Et après Liverpool, ils commencent à travailler sur des nouvelles bases. On a vu que Cavani, c'est la première fois qu'on le voit s'entendre aussi bien avec Neymar et Mbappé. On a vu, ils ont essayé de se faire des passes, de se rendre la politesse, etc. C'est aussi pour calmer les médias français. Et j'avais pas envie qu'on minimise la performance du Paris Saint-Germain parce qu'on a souvent dit oui, c'est que l'étoile rouge de Belgrade. Mais il faut savoir que l'étoile rouge de Belgrade n'a pas été battue chez elle depuis plus d'un an et demi.
Ils en prennent 4 hier.
Voilà, et
ils en prennent 4 aussi, ouais.
Naples,
ouais.
Et Liverpool, ils sont allés, ils se sont cassés les dents. Et Paris met 4 sans forcer. Donc il faut aussi reconnaître ce talent à Paris.
Et donc du coup, ils iront où Paris? C'est ça la question.
Bah, aujourd'hui, ça va être compliqué de dire ils iront où. Ils ont fini premier alors qu'il y a 2-3 semaines, on les critiquait, on parlait même peut-être éventuellement d'Europa League, de saison à oublier. Aujourd'hui, ils ont complètement fait le taf. Premier en championnat, ils sont quasiment irréprochables. Après, sur le mercato hivernal, il faudra vraiment prendre un 6. Même si Marquinhos dépanne, il a dépanné contre des adversaires moyens, voire moyens plus quand on parle de Liverpool et Naples. Maintenant, on rentre dans une nouvelle compétition à partir des 8e de finale où il va y avoir des adversaires beaucoup plus coriaces et Marquinhos, il est plus fort dans son rôle de défenseur que 6. Donc il faut peut-être trouver ce joueur qui soit capable d'être à l'aise au milieu de terrain et épauler Verratti, puisque Verratti, quand on sait qu'il a quelqu'un à côté de lui pour faire le sale boulot, et ben lui derrière il distribue comme un maestro, il fait ce qu'il sait faire. Donc aujourd'hui Paris, je pense qu'il doit vraiment miser sur un 6, même si Tuchel bricole bien, c'est indispensable pour espérer faire beaucoup plus que l'année dernière en Ligue des Champions.
On suivra les performances de Paris, notamment le tirage au sort pour savoir qui Paris affrontera pour les huitièmes.
Ça sera forcément un gros, ça sera forcément du courrier. Quoi qu'il arrive, même en terminant premier, ça va pas, ils seront pas épargnés.
À part s'ils prennent Schalke 0-4.
Après, il y a les qui prennent l'AS Roma, mais ça va, c'est encore bon. Mais là,
ouais, je pense aussi l'AS Roma, je pense que c'est bon.
Tout le monde le PSG.
Il y a l'Atlético Madrid qui est quand même
pour le tirage.
Oui. En tout cas, les amis, il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que Monaco en Ligue des Champions, il y a aussi Lyon. Lyon, et c'est l'heure du duel, puisque c'est ce soir, c'est face au Shakhtar Donetsk et c'est à 21h. C'est parti pour le duel.
Time Sport. Le duel.
Le duel. Le duel se passe ce soir à 21h entre le Shakhtar Donetsk et Lyon au stade Olimpijski. Voilà la question qu'on pourrait se poser puisqu'il y a une qualification en huitième de finale en ligne de mire pour l'Olympique lyonnais. Loin de Donetsk, la ville en guerre ou de Kharkiv, encore la deuxième maison du Shakhtar où sévit la loi martiale. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce match pour les Lyonnais? Faut-il aligner Nabil Fekir dont les performances sont en dents de scie depuis son retour de la Coupe du Monde, Nabil?
Oui, bien sûr.
Nabil, j'ai regardé le regard.
Il a démarré au quart de tour, Nabil.
Je connais bien un petit peu l'entourage de Nabil Fekir, donc effectivement, il a attendu, il le sait très bien. En ce moment, il a un peu de difficulté, mais je pense que
il a fait une bonne sortie après la Coupe du Monde. Tu dis qu'il est en difficulté peut-être actuellement, mais
actuellement, oui, actuellement, comme certains, comme un Benjamin Pavard, comme d'autres joueurs, Adil Rami, des champions du monde, ou un Lloris dans son club, ou d'autres joueurs. Mais je pense que ce soir, on verra donc un grand Nabil Fekir. Il a attendu. Il sait très bien que c'est un match super important pour Lyon, parce que là aussi, sur l'aspect financier, on parle de 12 millions ou même plus. Qui pourra atterrir dans les caisses lyonnaises, en sachant que Lyon a son destin, un match nul suffit, mais Lyon ne sait pas jouer le match nul. Donc un Fekir en grande forme, je pense, peut porter cette équipe. Ndombele, qu'on disait blessé, il sera titulaire normalement ce soir, avec Nabil Fekir. Donc j'attends vraiment une grosse performance de ces Lyonnais, en sachant que si on regarde bien les matchs en Ligue des Champions de Lyon, ils marquent toujours deux buts, au minimum deux buts, et ils n'ont pas perdu cette année en compétition, en Ligue des Champions, puisqu'ils ils ont gagné contre Manchester City, premier match, puis après des nuls, contre City, contre Hoffenheim et contre le Shakhtar également, ils avaient fait je crois 3-3 ou 2-2. Donc c'est une équipe qui sait marquer. Par offensivement, c'est très fort. Par contre, effectivement, défensivement, c'est un peu compliqué. Faudra faire attention, en sachant que les bookmakers sont pariés plutôt sur une victoire du Shakhtar.
Ouais,
est-ce que c'est logique ou pas?
À 40%. En tout cas, ce qu'on retiendra surtout, c'est que c'est l'importance de ce match qui est décisif, puisque si Lyon gagne, ils peuvent prendre la tête du groupe. Ça dépend du match
en cas de défaite de Manchester City. Parce que Lyon, s'il finit deuxième, Lyon s'il termine deuxième, ça évite aussi Paris de trouver un gros club peut-être anglais.
Et à l'inverse, ils peuvent aussi finir troisième si le Shakhtar l'emporte. Surtout qu'au match aller, on a vu que c'était un peu difficile. Il y a eu un 2 partout.
Après, Claude, c'était à huis clos le match aller.
C'était quand même difficile. Il y a eu quand même 2-2 pour.
Façon, juste, je vais intervenir juste pour rebondir sur ce que dit Nabil.
Alors attends, je donne juste la parole à notre coach Tolé et je te donne la parole juste après. Il a voulu s'introduire comme ça.
J'ai oublié ma voix. J'en oubliais presque ma voix. Non. Plus sérieusement, non. Mais clairement, de toute façon, Lyon doit s'imposer, doit se qualifier. Ce serait une déception quand tu es capable de t'imposer en Angleterre et les accrocher à domicile, même si tu peux regretter certaines les rencontres face à Hoffenheim par exemple. Lyon doit passer. S'il ne passe pas, ce serait une déception. Maintenant, ce sera difficile de jouer à Donetsk. Hein. C'est une équipe qui est à domicile et accrocheuse, donc va falloir faire preuve de caractère. Et quand on voit le repli défensif insuffisant des Lyonnais, j'ai peur que ce soit juste.
Et puis avant de donner la parole à notre consultant Saïd qui voulait absolument nous rajouter, il voulait nous dire quelque chose. Je vais donner un petit chiffre. Deux, c'est le Shakhtar qui n'a pas gagné lors de ses deux dernières réceptions en compétition européenne. Un match nul, une défaite. Tu le vois comment ce match, Saïd?
C'est encourageant, mais je vois que ça va être un match piège une nouvelle fois. Mais juste voulais rebondir par rapport à Nabil Fekir, puisque Nabil l'a évoqué, Genesio a plus ou moins répondu à cette question avec un parallèle certes un petit peu exagéré, mais il disait qu'en gros quand Messi était moins bien avec son club, est-ce qu'on parle de le mettre remplaçant dans un match si crucial? Et pareil avec Ronaldo dans son club. Et là c'est pareil, Fekir c'est un petit peu le joueur en termes de talent qui sort du collectif. Donc pourquoi Lyon s'en priverait même s'il est moins bien, puisqu'on sait que s'il décide d'être dans un bon jour, c'est une super aubaine pour l'Olympique Lyonnais. Maintenant jouer au Shakhtar même si on joue pas dans leur stade, donc même si pour eux c'est pas totalement du domicile, ça reste quand même un match assez casse-gueule parce que eux vont jouer leur qualif, donc ils ont vraiment quelque chose à aller chercher. Lyon, ils sont dans une position où ils doivent conserver un résultat, puisque avec un match nul, le match débute à 0-0, j'apprends rien à personne. Lyon se qualifie, donc ça va être compliqué pour Lyon de gérer, de savoir comment on prend le match. Est-ce qu'on attaque pour se mettre en sécurité, ou est-ce qu'on défend et on accepte de défendre jusqu'à prendre un but et après se rebeller? On ne sait pas dans quelle configuration on va se mettre. Maintenant, je fais confiance à Genesio. Il a prouvé en Ligue des Champions cette saison, il n'a pas encore perdu. Il a réussi à déjouer Guardiola une fois en le battant, une deuxième fois en ne perdant pas. Donc aujourd'hui, voilà, Genesio a prouvé qu'il avait les capacités d'emmener l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions, donc on va le laisser faire.
Mamadou, tu le vois comment ce match entre le Shakhtar Donetsk et l'Olympique Lyonnais? Je rappelle que c'est ce soir à 21h.
Deux choses, les statistiques sont contre Nabil Fekir, juste pour revenir dessus. Hein. Enfin, on s'aperçoit qu'en fait, quand il ne joue pas, tu dois avoir des chiffres, quand il ne joue pas, l'Olympique Lyonnais gagne et que, surtout marque plus de buts quand il n'est pas sur le terrain. Alors, ceci étant dit, c'est pas pour autant qu'il faut le mettre de côté. Saïd vient de rappeler tout de suite que quand Lionel Messi n'est pas en forme, qu'il est un joueur majeur, voire le joueur majeur de Barcelone, on se pose pas la question. Et justement, la question de savoir, est-ce que Fekir va être capable de faire démentir ces statistiques qui sont contre lui? Parce que quand on les voit, effectivement, on s'aperçoit que sur ce début de saison, quand il n'est pas là, Lyon a beaucoup plus de chances de gagner et marque plus de buts. Je pense qu'il a l'étoffe. Il est quand même investi depuis un moment. Depuis qu'on lui a mis le brassard, ce qui remonte quand même à plus de deux saisons, il est investi par ce rôle-là. Et je pense que lui-même, c'est un joueur qui est très très fier et qui n'acceptera pas ces critiques qu'on peut lui faire enfin, qu'on essaie d'induire. Donc je pense qu'il faut qu'il joue. Et dans un second temps, Lyon ne sait pas attendre. Lyon va être obligé de jouer. Il a un style de jeu qui est porté vers l'offensive. Il ne peut pas jouer contre nature. Donc il va être obligé de jouer. Si Lyon joue l'attente, à mon avis, ça passera pas.
En tout cas, le mot de la fin sur Lyon pour notre coach Cholet. Tu voulais nous rajouter quelque chose concernant Lyon.
Il a tout dit, Mamad. C'est que Lyon n'a pas cette capacité, n'a pas cette philosophie de défendre. Donc la meilleure façon, c'est d'attaquer, de jouer la gagne, tout simplement.
Saïd, on va finir avec toi finalement brièvement,
très brièvement
sur ce match.
Je vais appuyer les propos de Mamad quand il parle du capitana pour Nabil Fekir. C'est vrai que ça donne confiance. On l'a vu, Emery a donné le capitana à Ozil qui lui a donné confiance et ça a complètement changé le joueur. Donc ce genre de joueur un petit peu réservé dans la vie, quand on leur donne le capitana, on leur donne des responsabilités sur le terrain, ça se ressent. Donc c'était très intelligent de la part de Mamad d'avoir souligné ce point-là.
Et ce qui peut être intéressant, Nabil le disait et tu l'as répété, Saïd, il suffit seulement d'un match nul à Lyon pour se qualifier. Et lors du match aller de la deuxième journée, Lyon avait arraché le nul de partout après avoir été mené grâce à des buts de Moussa Dembélé et Léo Dubois. Donc finalement, tout est possible pour l'Olympique Lyonnais. Cette rencontre entre le Shakhtar Donetsk et Lyon, c'est à suivre ce soir à 21h. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines émissions de cette Ligue des Champions et des performances de Lyon s'ils vont plus loin avec nos consultants. Merci à vous, chers consultants. Je rappelle notre coach Cholet, Nabil Zindik, Mamadou Lamine Mané ou encore Saïd Hamda. On se retrouve demain de 18h à 19h. Merci à vous, chers auditeurs, et à très vite.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.